affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Le sommaire de notre émission est plutôt cette semaine un menu. Nous allons en effet avoir la chance d'être conviés à la table des diplomates pour effectuer un grand voyage dans l'histoire de France raconté à travers l'histoire de ces grands repas. Ce programme, ce menu, c'est celui que nous propose un ouvrage récemment paru aux éditions de l'Iconoclaste et présentant une série de festins, banquets et repas diplomatiques servis de 1520 à 2015, autant dire de François Ier à François Hollande, du festin du camp du Drap d'Or au repas servi à la COP 21. Pour effectuer ce grand voyage à la fois historique, diplomatique et gastronomique, nous avons la chance de recevoir de notre studio Jean-Pierre Bablon. Jean-Pierre Bablon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, bien sûr, chacun des auditeurs de Canal Académie le sait, spécialiste du XVIe siècle, et vous avez apporté, membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres, et vous avez apporté votre contribution à cet ouvrage collectif publié sous la direction de Laurent Stefanini, qui a lui occupé le poste notamment de chef du protocole à l'Élysée, je crois. Et vous avez contribué à cet ouvrage collectif en vous penchant sur la période d'Henri IV, dont on sait déjà qu'il a eu un rôle majeur dans l'imaginaire gastronomique français avec la fameuse poule au pot qu'il promettait à chacun des ménages de notre pays. Mais nous découvrirons que cela ne s'arrête pas là. Moi, je vous propose qu'on commence de façon chronologique, mais peut-être un petit peu avant le fameux festin du camp du Drap d'Or, car après tout, le rôle de la gastronomie dans la diplomatie, j'imagine que ça n'a pas commencé en 1520, ça doit être presque immémorial, non ?
Oui, je pense que c'est intéressant de savoir s'il y a d'autres pays que la France où cette mise à table lorsqu'il s'agit de réunir des chefs d'État qui peuvent être en guerre et qui espèrent trouver la paix. Cette mise à table est un accompagnement nécessaire et en même temps qui va permettre de se retrouver autour de la table avec le sourire et que ce sourire se termine par un accord général après ça sur le plan diplomatique. Donc c'est intéressant de voir que sur des siècles comme ceux-là, cet art français de la table a joué ce rôle d'une façon continue depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui.
On aurait presque même tendance à penser que c'est presque de l'ordre de l'anthropologique, non ?
Tout à fait, l'anthropologie, voilà, je ne sais pas si les tribus de la préhistoire se réunissaient comme ça quelquefois pour manger les aurochs, voilà. Mais enfin, bon, en tout cas, c'est un livre très, très original et c'est assez curieux de voir que cette présence, la présidence, la direction de l'ouvrage a été faite par Laurent Stefanini, dont vous venez de parler, et que le volume qui est ici est une conjonction autour d'une même table, c'est le cas de le dire, d'historiens et de grands cuisiniers, n'est-ce pas ? Puisque nous avons autant de grands cuisiniers attachés à des grandes tables bien connues en France, qu'il y a d'auteurs qui évoquent dans ces célébrations. Donc la présence des cuisiniers, la présence des les recettes qui sont données, puisque c'est aussi un livre de recettes, si vous voulez véritablement préparer un dîner ce soir, qu'il soit celui qui est général de Gaulle, ou etc., vous pouvez...
Ou de François Ier,
c'est extraordinaire. Vous avez la recette, n'est-ce pas ? Vous avez la recette, mais ça prend du temps, parce que généralement, la mise au point de tout ce qui est réuni dans cette recette prend un certain temps. Mais enfin, c'est le doigt des grands cuisiniers qui est là.
Oui, d'ailleurs, je vais en citer quelques-uns. Parmi ceux qui ont contribué à l'ouvrage, Guylaine Arabian, Olivier Belin, Jean-Pierre Biou, Yves Candebord, Thierry Charrier, Alain Dutournier, je passe l'alphabet comme ça, ensuite je m'arrêterai, je ne peux pas tous les citer, Antoine Grattard, Michel Guérard, Marc Eberlin, Xavier Hamon, Patrick Henri Roux, Arnaud Lallemand, Stéphanie Lequelec, Thierry Marx, Jacques Maximin, Alain Passard et donc j'en passe, sont des contributions extraordinaires.
C'est des grands noms qui font honneur à la cuisine française.
Et qui ont effectué, si je comprends bien, un travail de recherche, puisqu'il ne s'agissait pas... On a perdu, évidemment, les recettes en tant que telles. Parfois, on a les menus de ces grandes rencontres. Mais en revanche, il faut qu'ils interprètent en se plongeant dans les traités de cuisine de l'époque pour imaginer ce que probablement recouvrait tel ou tel menu annoncé. Or, ce n'était pas une mince affaire, car si nous nous replongeons dans ce premier festin, le premier festin présenté dans le livre... Les festins du camp du Drap d'Or, d'une part, c'est une véritable recherche historique, puisque ce festin se tient du 7 au 24 juin 1520, et c'est quelque chose d'absolument faramineux.
Oui, c'est vraiment extraordinaire de penser que nous pouvons avoir un récit de cette entrevue du camp du Drap d'Or entre François Ier et Henri VIII, mon affirmation du pouvoir de deux monarques. On espérait que ça marcherait, n'est-ce pas, vis-à-vis de l'Empire allemand. Et puis, ça n'a pas marché. Mais enfin, cette rencontre qui était préparée depuis un certain temps et qui était issue d'un pacte de non-agression a finalement eu lieu au camp du Drap d'Or. Et cette entrevue était si célèbre qu'elle a fait l'objet notamment d'une grande peinture de Frédéric Butterwerk. La tente de drap d'or doublée de velours bleu, n'est-ce pas? Et sous cette tente, évidemment, on va bien manger.
Alors, j'utilisais le terme de faramineux, c'est peu dire, car il y a là plusieurs milliers de convives, et c'est peut-être la particularité de cet événement-ci, qui est presque encore un peu médiéval, c'est que les deux souverains se déplacent, ils ne reçoivent pas dans leur lieu habituel de pouvoir, donc il y a une intendance absolument incroyable, puisque lorsque les Français reçoivent les Anglais, ils doivent servir plus de 3000 convives, presque en rase campagne, sous des tentes. Vous imaginez la logistique absolument incroyable qu'il faut mettre en œuvre, une dépense de 400 000 livres tournois. Je ne connais pas l'équivalence avec aujourd'hui, mais enfin, je comprends que c'est quelque chose d'énorme, puisqu'il a même fallu que le roi emprunte à des banquiers lyonnais pour accomplir ce festin. Alors, bien évidemment, l'objectif n'était pas seulement gastronomique. Pour quelle raison peut-on gréver à ce point les finances royales? Il y a bien d'autres objectifs. Est-ce que vous pouvez nous les décrire, non seulement à travers cet exemple, mais à travers d'autres?
Il s'agit de convaincre celui qui pourrait être un adversaire qu'il faut qu'il devienne un ami, n'est-ce pas? Donc il faut le faire bien manger pour amener le sourire et puis une espèce de lien d'amitié, au moins d'hôtes privilégiés qui permettent, donc, encore une fois, de se dresser en allié contre l'Empire de Charles Quint.
Est-ce qu'il ne s'agit pas aussi, par la même occasion, en démontrant ses capacités logistiques, de faire étalage de sa puissance, voire de la hauteur de sa civilisation? Car un fait est frappant, c'est qu'à cette époque, on est encore quand même dans des sociétés, j'allais dire, de pénurie. C'est-à-dire que se nourrir reste un problème.
Oui, oui. C'est aussi faire valoir effectivement les produits français. C'est ça que les Anglais pourraient peut-être venir acheter.
Oui, acheter ça pourrait leur donner une mauvaise idée aussi.
Oui.
Alors après, c'est cette première description qui campe bien l'importance de ces enjeux. On en vient à votre propre contribution consacrée ici aux noces royales à Lyon. Alors là, ça paraît beaucoup plus logique. Des noces, c'est forcément festif.
C'est festif. Et puis, c'est festif parce qu'il faut que Henri IV prouve véritablement à Marie de Médicis qu'il a envie de l'épouser, n'est-ce pas?
Il a un certain passif.
Il a un certain passif, n'est-ce pas? Et jusqu'au dernier moment, on s'est demandé si ce mariage avec une Médicis, négocié avec la bénédiction du pape, aboutirait ou non, puisque à ce moment-là, le roi était en liaison avec Gabriel d'Estrées et il se demandait si ça ne serait pas mieux de rester avec Gabriel, n'est-ce pas ? Et puis, miraculeusement, Gabriel est morte. Et donc, ça a libéré le champ. Donc, à cette venue de Marie de Médicis, elle est partie. Elle s'est mariée par procuration, n'est-ce pas, en partant de Florence. Et puis après ça, elle est partie en bateau. Et puis elle s'est imaginée que quand elle arriverait à Marseille, le roi serait là pour l'accueillir. Mais le roi était en guerre avec le duc de Savoie à ce moment-là. Il ne pouvait pas se dégager. C'est pour ça que j'ai accompagné cette publication de la lettre d'amour qu'Henri IV a écrite à Marie de Médicis en lui disant « Mais voilà, je ne vais pas être là, mais je meurs d'impatience, je vais être là, je vais faire tout ce que je peux, voilà, on se retrouve. » Et on se retrouve à Lyon. Et c'est à Lyon qu'ils se sont retrouvés. Donc toutes les cérémonies avaient été faites. Et alors, pour être tout à fait trivial, ils se sont réunis, il y a eu le repas. Bon, et puis après ça, ils se sont réunis dans une chambre à l'archevêché de Lyon. Et le dauphin, futur Louis XIII, est né exactement 9 mois après.
Oui, mais Henri IV, c'était Henri IV.
C'était Henri IV, voilà. Voilà, donc alors ce repas...
Ce n'est pas le seul à être né quelques mois plus, enfin, neuf mois plus tard, d'ailleurs.
Non, bien sûr, comme vous dites. Voilà, il y en a un autre aussi qui est né, César de Vendôme. Enfin... Voilà.
Il n'est pas dans la dynastie.
Non.
Alors, le sujet du livre, c'est toutefois la gastronomie. Alors, quel document avons-nous pour imaginer ces agapes ?
Eh bien, écoutez, ce qui est absolument stupéfiant, c'est qu'on a retrouvé, alors que j'étais en train de travailler sur le sujet, on a retrouvé aux archives du Quai d'Orsay le menu du festin. C'est extraordinaire. Et vous avez un facsimilé, n'est-ce pas, de ce festin royal fait à Lyon pour les noces du roi. Avec premièrement pour le plat du roi 6 douzaines de pain, 4 septiers de vin, et le potage et entrée, une biscaye, un pot, etc. Alors ce qui nous frappe beaucoup dans tout ça, c'est que c'est l'abondance du nombre de services, n'est-ce pas ? Services extrêmement nombreux, sachant que on ne mangeait pas de tout, n'est-ce pas ? On mangeait un petit peu de ça, on choisissait de prendre ou de ne pas prendre ce qui était proposé. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, n'est-ce pas ?
C'est-à-dire que tout était présenté, voilà, en quelque sorte presque simultanément.
Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que c'était...
Un peu comme on dirait à l'oriental aujourd'hui.
Oui, c'est ça. C'est des services. Hein, on vous sert un service. Service, il est sur la table à côté. Vous regardez, je veux bien ci, je veux bien ça, et pas de ci, ça. Puis après ça, on passe au deuxième service, au troisième service. Voilà.
Donc, la caractéristique française, c'est qu'il y a des services successifs.
Alors. Oui, c'est ça. Oui.
Parce que si je ne me trompe pas, au moment des noces royales, oui, d'Henri IV, on est quand même à un tournant dans l'art culinaire français.
Oui.
Qui commence d'ailleurs à être formalisé, je crois, par un certain nombre de traités
depuis
un siècle.
Tout à fait.
Notamment le viandier de Taïwan.
Le viandier de Taïwan, c'est un nom qui est resté célèbre, n'est-ce pas ? Le viandier qui donne donc, c'est déjà un grand livre de recettes. Et nous avons donc, je vous lis ce petit récit, puisque nous avons l'ambassadeur italien qui s'appelle Lippo Manno, qui était là et qui a regardé, n'est-ce pas ? Là, c'était pas une grande table, c'était le roi et la reine simplement. Et Lippo Manno nous raconte un petit peu comment ça se faisait. Et il nous dit, la reine commença par manger 4 œufs à la coque, qu'elle but en partie. Donc, ce n'était pas dans des coquetiers, n'est-ce pas ? On prenait l'œuf et puis on le buvait comme ça avec ses doigts. Donc, d'ailleurs, on mangeait beaucoup avec ses doigts, n'est-ce pas ? Qu'elle but en partie et qu'elle acheva de vider avec un morceau de pain. Vous voyez, tout ça est extrêmement rural. Le roi en fit autant, mais sans se hâter. Il tenait l'œuf à bras tendu pour le casser avec la pointe de son couteau. Il était visible que sa vue s'affaiblissait, sa main tremblait. Oui, évidemment, il n'était plus très jeune. Voilà, donc on a donc ce récit extraordinaire et avec les verres de vin, n'est-ce pas, qu'on vous sert à côté.
Coupé d'eau. Alors, ce qui frappe également, je trouve, dans les menus de cette époque, mais ça perdure ensuite, c'est la grande importance de tout ce qui est carné.
Oui, oui.
On a de la viande, de la viande,
de la viande, de la viande. Oui, c'est vrai. C'est vrai, énormément de viande.
Comment explique-t-on ce goût incroyable pour la viande? Il y a un moment, on parle de cette théorie de la chaîne des êtres, des correspondances.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on mangeait moins de poisson aussi, parce que les comparaisons peuvent se faire avec du poisson. Donc, on était quand la côte est moins près des côtes, et alors on pouvait avoir tout un cheptel de bétail qui pouvait être utilisé. Puis c'était aussi une façon de faire valoir le terroir français en montrant quelle était la qualité de la viande bovine qui se trouvait sur nos champs.
Un autre élément qui est non moins frappant, c'est la présence extrêmement forte encore des épices.
Oui. Oui, oui, énormément d'épices. Énormément d'épices, voilà. Ça veut dire que c'était... Enfin, il y avait une façon de cuire, mais aussi il y avait une façon d'accommoder la viande avec des épices, enfin la viande ou certains légumes, avec des épices. Et bon, c'était effectivement une part de l'agriculture de cette époque qui était importante. Marie de Médicis, elle arrivait avec l'esprit un petit peu chagrin d'avoir fait tout ce voyage toute seule, n'est-ce pas ? La familiarité... amoureuse ou voulant être amoureuse d'Henri IV, l'a beaucoup frappée et l'a rendue souriante alors qu'elle devait arriver avec le visage un petit peu fripé. Donc, elle a dû accepter ce repas avec plaisir. Et bon, et le roi a dit après ça que véritablement, il la trouvait beaucoup plus agréable qu'il ne la craignait, n'est-ce pas ? Bon, il pensait voir arriver une femme énorme, un peu rébarbative, et il a trouvé qu'elle avait des charmes qu'il ne supposait pas... au moment de son départ d'Italie.
Parce que de son côté, lui, Henri IV, il aime la chair, la bonne chair, avec un égal appétit. Une sorte d'ogre, il est décrit comme un ogre, qui croque à pleines dents dans tout. Dans l'ail, dans les oignons.
Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Enfin, bon, comme... il avait été... Bon, j'insiste aussi sur le fait que il avait eu une enfant de petit garçon rural, n'est-ce pas ? Donc, tout à fait.
Le Béarnais,
le Béarnais, n'est-ce pas ? Il était allé avec ses petits camarades, il courait dans l'herbe, et puis on allait chez les fermiers, et on allait chercher de la viande ou des épices, etc., avec ses petits camarades chez les fermiers.
Oui, vous écrivez, lui-même, en parlant d'Henri IV, aime les plats rustiques, les grosses garbures aux choux, les gibiers faisandés, les ratatouilles, c'est-à-dire les grossiers ragoûts pour soldats. Il croque l'ail et l'oignon cru et il préfère les fromages quand ils sont forts. Il aime aussi les poissons, les sardines, les huîtres. Il arrive également de se gaver de confiture, de dragée. Et Scaliger nous raconte que le roi mange jusqu'à en être malade. Enfin, pour la boisson, le roi est grand amateur de vin, non seulement ceux de son pays natal, comme le Jurançon, mais aussi ceux de Champagne. Et il aimait se proclamer sire D, près d'Épernay, où se trouvent encore aujourd'hui les meilleurs crus.
Aïe, aïe.
Aïe.
Aïe. Sire d'Aï. Voilà, il est allé un jour par là, et il a dit, je suis roi de France, sire d'Aï.
C'était charmé par les vins qu'il a déclaré.
Oui, 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 oui.
Écoutez, cet homme est décidément très sympathique. Alors, de son côté, la reine Marie semble... Vous nous dites beaucoup plus frugale.
Elle mange peu, comme vous avez vu.
Pour revenir à cette distinction, on a vu que Henri IV était relativement rustique, mais toutefois, il semble qu'à partir de cette époque, et j'allais dire jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, mais ça perdure ensuite, l'art gastronomique français tend à se distinguer de celui qui est pratiqué dans les autres cours, ce qui nous mène peut-être d'ailleurs à évoquer... une exposition que vous aviez pilotée à Versailles sur la table royale. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ça ? Car, de fait, à Versailles, la France étonnait le monde, notamment par sa gastronomie.
Oui, oui. Ben, écoutez, voilà, quand j'étais directeur général du château de Versailles, nous avions organisé avec Béatrix Saul une exposition qui s'appelait « Les tables royales ». Et cette exposition... a eu un très grand succès. C'était absolument étonnant parce que nous avions voulu justement ressusciter dans les galeries de Versailles cette vocation de la gastronomie, mais aussi, pas seulement la gastronomie, c'est la façon la façon de tenir un repas royal. Et ce qui nous avait frappé, on avait cherché les menus, on avait cherché les façons de servir aussi, je vais vous en dire un mot, mais on avait cherché aussi la vaisselle et les couverts, parce que du temps d'Henri IV, c'est plutôt avec les doigts qu'on mangeait, tandis qu'après ça, bon,
c'est un peu polissé.
On s'est un peu polissé. Or, nous nous sommes aperçus que la Révolution française avait fait disparaître entièrement tout ce qui pouvait rester des grands repas monarchiques de France. Donc, il fallait chercher ailleurs.
Et c'était vendu, c'était dispersé, c'était brisé.
Cassé, et bon, bien sûr, l'argenterie a été fondue, n'est-ce pas, naturellement. Et alors, figurez-vous que nous avons fait une espèce de chasse dans l'Europe, et nous avons trouvé notre miel en Russie. Parce que la révolution russe n'a pas démoli ce qui venait de la vie des tsars, n'est-ce pas ? Elle l'a réservé dans un coin, pendant des réserves. Et nous avons pu emprunter, donc c'est une grande partie de la vaisselle russe que nous avons pu présenter sur ces tables. Et alors pour ce qui est de la façon de procéder pour ces grands repas, nous avions décidé, pour nous amuser, Béatrix Soul et moi, d'organiser un dîner un jour, comme s'il était servi, étant de la monarchie. Alors nous avions été voir, il nous fallait des serveurs, les serveurs on les a trouvés dans une troupe de scouts de Versailles, et puis on leur a appris comment il fallait faire, et puis j'avais un grand appartement à Versailles avec une grande table, nous avons invité des amis à se mettre autour de la table, et donc c'est les scouts étaient là tout autour, donc il était entendu qu'on ne posait jamais les plats sur la table, n'est-ce pas, qu'on servait, c'est-à-dire on tourne autour de la table en proposant, hein, est-ce que vous voulez ci, est-ce que vous voulez ça, premièrement, et deuxièmement aussi le fait qu'on ne met jamais une carafe ou un verre ou une bouteille de vin sur la table et on ne remplit pas un grand verre, n'est-ce pas. On se tourne en disant donnez-moi un verre de Pouilly, etc. On vous donne un petit bout de vin, vous le buvez, puis vous posez votre verre, puis si vous en voulez, vous demandez encore, n'est-ce pas ? Ça veut dire un service.
Ça pousse à la modération, quand même.
Oui, ça pousse à la modération, et ça veut dire que bon, vous avez beaucoup amusé, et c'est un grand, très grand succès pour cette exposition, n'est-ce pas, qu'on avait voulu organiser à cette époque-là.
Oui, parce qu'il faut souligner qu'effectivement, le succès de ces repas, banquets, festins, selon les circonstances, ne repose pas seulement sur l'art culinaire proprement dit, mais bien entendu, on est dans un cadre diplomatique, donc le protocole a son importance, l'étiquette, le savoir-vivre, et que c'est davantage un art de recevoir. D'ailleurs, finalement, ça perdure, puisque je crois qu'aujourd'hui même, lorsque le repas gastronomique des Français a été classé au patrimoine immatériel de l'humanité, il ne s'agit pas seulement de la cuisine, mais de la façon de la présenter. Expliquez-nous cela à l'époque, et puis peut-être aujourd'hui, pourquoi cela se justifie.
Ouais, c'est-à-dire que, ça veut dire ? Ça veut dire qu'on s'assied, qu'on commande, qu'on attend que ça vienne, bon, on ne s'impatiente pas, on parle et après ça, on célèbre les plats qui arrivent les uns après les autres en prenant toujours. On ne refuse pas, n'est-ce pas ? On ne refuse pas d'un plat. On en prend beaucoup ou un peu, suivant son appétit. Et puis, en même temps, la conversation se trouve animée par les plats qui apparaissent. N'est-ce pas ? C'est un art de la conversation avec l'art de la consommation. Je pense que c'est les deux choses à la fois qui sont importantes.
C'est un art de vivre, finalement.
Un art de vivre, voilà. Nous avons la chance d'en profiter.
Toujours est-il que ce qui est absolument sidérant, c'est de voir que finalement, dans ces usages gastronomiques et diplomatiques, les changements de régime n'ont finalement qu'une influence extrêmement faible. Un petit peu comme si, à travers ce pays tumultueux qu'est la France, traversé de révolutions, de contre-révolutions, Dieu sait si après 1789, on a comme ça une alternance de régimes de toutes sortes avec des idéologies diverses. Mais alors, il y a une chose qui est permanente et à laquelle on se raccroche et qui continue à permettre le rayonnement de la France, c'est sa gastronomie, son art de recevoir, que ce soit l'Empire, la République ou la Restauration, ça c'est immuable.
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ça veut dire que cet art de recevoir était conçu par les diplomates, notamment, comme un art absolument indispensable et où la France offre véritablement une table qui peut servir à apaiser les dissensions. Et c'est intéressant de voir que tous les menus qui ont été conservés au Quai d'Orsay prouvent l'intérêt porté à cette gastronomie. Et notamment les menus qui ont été offerts aux personnalités russes, par exemple, les menus qui ont été offerts au moment des expositions universelles, prouvent que véritablement, on se retrouve autour d'une table et c'est l'universalisme qui se réunit autour du foyer français.
Oui, ça c'est certainement un élément intéressant, c'est qu'une des grandes forces, semble-t-il, de la cuisine française par rapport à, j'allais dire, ses rivales, même si on est dans le domaine de la diplomatie, c'est qu'elle est capable, grâce à son ouverture au monde et à sa capacité à intégrer et sublimer des apports venant de toutes les cuisines nationales du monde entier, de concevoir des menus qui soient séduisants, qui représentent à la fois la France, mais aussi l'hôte que l'on accueille, et d'établir une sorte de fusion qui est à la fois très française, comme vous l'avez dit, très universelle. Et d'ailleurs, c'est tout un art qui est extrêmement bien présenté dans l'ouvrage, de dosage subtil, visant à la fois à assurer le rayonnement de la France et de ses productions agricoles, de ses différents terroirs, parce que, attention, la France aussi observe ce qui va être présenté à la table. Il est hors de question que ce soit un menu intégralement du Nord, de l'Est ou du Sud. Chacun veut avoir la fierté de voir ses spécialités régionale présente, mais dans le même temps, on veut démontrer sa maestria à intégrer des choses qui viennent de tous les horizons, d'autant que durant une grande période de l'histoire de France, il y a un empire colonial et que là aussi, il faut le mettre en valeur. Et enfin, comme il est expliqué, envoyer un certain nombre de signaux pour dire qu'à travers cette cuisine et cette osmose des produits du pays de l'hôte accueilli, eh bien, c'est déjà comme une préfiguration de l'entente qui pourrait naître sur d'autres sujets. Et que finalement, voilà, la cuisine, c'est cela. Ce n'est pas quelque chose de conflictuel. On peut aimer le vin et la bière. On peut aimer les épices et la cuisine au naturel. Et tout cela est présenté de façon quasi stratégique dans chaque menu.
Et alors, ce qui est très, très amusant, il y a un chapitre sur l'entente cordiale, sur les relations entre le général de Gaulle et Winston Churchill. Et vous avez en face, l'un de l'autre, les menus. Vous avez à gauche le menu de la réception du général de Gaulle par Churchill à l'ambassade de Grande-Bretagne. Et vous avez à droite le menu de la réception de Churchill par de Gaulle, n'est-ce pas ? C'est intéressant de comparer, n'est-ce pas, finalement, c'est pas très éloigné l'un de l'autre, n'est-ce pas ?
Parce que chacun ayant fait un effort, on trouve un terrain d'entente.
Exactement, voilà.
Alors, à propos d'effort, d'ailleurs, j'ai découvert que la reine d'Angleterre ne buvait du champagne que lorsqu'elle était reçue en France, oui, par respect du protocole, oui, et que sinon, elle était toujours au gin tonic. Alors, je veux dire, elle m'a beaucoup déçu, quand même.
Et vous avez déçu, bon. Et vous avez vu qu'aussi...
Comment peut-on préférer le gin tonic au champagne ?
Ouais. Vous avez vu qu'il ne faut pas la toucher aussi.
Ah, ça m'avait échappé. L'idée ne m'était pas venue, donc ça m'a pas frappé.
C'est interdit de toucher à la reine, ce qui faillit créer un incident lorsque Georges Pompidou lui prit le bras. Il faut rester discret, s'abstenir de parler, sauf pour répondre à la reine. Ah, ça, c'est indispensable. Et vous voyez, ça, c'est encore Versailles qui nous ramène là, puisque c'est le grand Trianon, avec Georges et Claude Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, etc., qui reçoivent là, qui sont présentés à la reine.
Oui, c'est l'autre trait absolument frappant, c'est qu'on sent presque une sorte de fascination française, y compris républicaine. C'est dit par un des auteurs, la République adore la royauté des autres. Un petit peu comme si, en recevant des hôtes de dynasties étrangères, on se réinscrivait.
On se monarchisait, voilà. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Ah, ceci me rappelle une anecdote personnelle. Lorsque j'étais à Versailles, le président Mitterrand avait décidé que le palais de Trianon devait être aménagé pour recevoir des souverains ou des chefs d'État étrangers qui puissent faire un petit séjour comme ça près de Paris, au château de Versailles, pour les honorer. Et il y avait donc un grand dîner qui avait été prévu aussi, et en même temps hébergé le président Boris Eltsine, président de la Fédération de Russie. Ceci se passait au début des années 90, et moi j'étais là responsable pour recevoir le président. Et j'étais sous le péristyle du Grand Trianon, en attendant la voiture est arrivée, et le président Eltsine est descendu de la voiture, et j'ai descendu les degrés du Trianon pour dire « Monsieur le Président, vous savez que lorsque un autre tsar de Russie, si je peux dire, était venu à Versailles, au début du XVIIIe siècle, et à ce moment-là, le roi de France était un petit enfant, c'était le petit Louis XV. Et Louis XV est descendu les marches pour accueillir Pierre le Grand. Pierre le Grand l'a élevé dans ses bras pour lui dire bonjour. Et à ce moment-là, j'ai été interrompu dans mon récit par le président Eltsine qui m'a dit « Ah ah, le petit Mitterrand, le petit Mitterrand !» Alors, je ne savais plus où me mettre, n'est-ce pas ? Voilà, j'ai terminé immédiatement mon discours et je l'ai conduit dans son appartement. Et puis après ça, il y a eu le grand dîner officiel dans une galerie de Trianon. Et le président Eltsine se trouvait en face du président Mitterrand. Et le président Mitterrand lui a dit « Monsieur le Président, vous savez qu'un tsar de Russie était déjà venu ici, n'est-ce pas ? C'est le tsar Pierre le Grand et il se trouvait en face d'un roi de France qui était un petit enfant, qui était le petit Louis XV. » Et personnellement, je me suis dit « Oh là là, j'espère que le président Eltsine ne va pas avoir la même remarque que celle qu'il a eue tout à l'heure. » Le dîner s'est bien terminé. Et puis tout le monde est parti, le président Mitterrand est parti. À ce moment-là, j'ai vu le président Eltsine qui est sorti avec quelques amis, qui est descendu dans les jardins de Trianon et qui, ce que j'ai compris, a dit à ses camarades, bon, maintenant, on va dîner. Voilà. Et qui a rejoint plus tard son appartement.
Il avait confondu le repas avec des akouskis.
Akouskis.
D'ailleurs, c'est assez frappant ce goût extraordinaire pour les réceptions à Versailles.
Mais Versailles était fait pour ça. Hein.
En d'autres temps, oui,
mais enfin la République s'est intégrée dans Versailles pour ses grandes réceptions, n'est-ce pas ? Et l'ère n'est certainement pas terminée, n'est-ce pas ? Bon. Recevoir.
La Galerie des Glaces.
Oui, bien sûr. Et Versailles, et puis je vous dis Versailles, et Trianon.
Le choix du lieu est d'ailleurs également systématiquement important. Il y a une anecdote assez croustillante aussi. Lorsque je crois que la guerre n'est pas encore terminée et que Churchill décide de venir un 11 novembre en France, au début, De Gaulle, d'abord, est furieux que ce soit le 11 novembre, parce qu'il déclare « Churchill va me voler mon 11 novembre », le premier de Paris suite à la libération de Paris. À ce moment-là, les projets anglo-saxons sur la France ne sont quand même pas exactement dans les goûts du général. Et donc, il est proposé au Premier ministre anglais de loger au Quai d'Orsay. Et dans un premier temps, celui-ci refuse. Il dit non, je serais plus à l'aise à l'ambassade de Grande-Bretagne. Ce qui manque de créer un premier incident diplomatique sur des broutilles. C'est-à-dire qu'on se rend compte que tout détail a son importance dans ce type de rencontre. Tant est si bien que finalement, il est très content parce qu'il peut se baigner dans une baignoire en or qui avait été réservée par Göring, qui n'est pas connu pour ses goûts simples. Mais Churchill, visiblement non plus, car ce qui a fait son grand contentement, c'est qu'en revanche, son subalterne Eden, lui, avait une baignoire en argent.
Ah oui, ça, c'était en dessous.
Heureusement que l'inverse n'a pas été l'inverse, sinon c'était l'incident assuré. Pour revenir avec votre permission, pour revenir au cœur du sujet, Est-ce que vous me permettez d'une part de présenter un certain nombre des recettes, non pas dans leur entièreté, mais les noms sont, leurs intitulés sont tellement poétiques que je pense que ça ne peut qu'inciter nos auditeurs à devenir des lecteurs de cet ouvrage, car c'est l'un des charmes de cet ouvrage que d'avoir, comme nous l'avons dit, permis à des grands chefs d'aujourd'hui de reconstituer ces recettes. Imaginez-vous de pouvoir recevoir vos hôtes chez vous en leur expliquant qu'ils vont avoir l'un des mets servi au camp du Drap d'Or ou à Nikita Khrouchtchev par De Gaulle ou encore à John et Jackie Kennedy. Donc, parmi les entrées, l'œuf de poule au caviar à la coque, chaud froid de pommes de terre sous la cendre, les cœurs de céleri braisés à la moelle, le consommé antiboise, le tartare de Saint-Jacques, huître et navet, boule d'or, dans les poissons et crustacés, les suprêmes de brochet châtelaine, le saumon sauvage de l'Adour confit, coco masala, petit pois, le turbo rôti, ça c'est plus simple, mais on remarque qu'il y a une sorte d'épure qui se crée entre la truculence médiévale et la COP21. Il y a quand même un petit peu de perte en ligne. Mais il est vrai qu'à la COP21, il y avait 156 chefs d'État et des contraintes alimentaires dues aux interdits culturels des uns et des autres qui réduisaient quand même l'ampleur des possibilités offertes. Les pieds de cochon, c'était difficile ce jour-là. Dans les viandes et volailles, les pigeonneaux fermiers au poivre de Selin, petit pois à l'amande poivrée, la bécasse préparée sur sa rôtie, les suprêmes de volailles aux truffes et légumes nouveaux, le corps à corps de volailles haute couture, la selle d'agneau printanière, le grenadin de veau aux girolles, la caille princesse de Jean Verne. Tout ça nous met décidément en bouche, et je précise, donc ce ne sont pas seulement des intitulés, mais les recettes entières que l'on peut retrouver contextualisées dans l'ouvrage, même si bien entendu il va falloir faire appel au talent de chacun, au-delà de la compréhension. C'est une chose de lire, c'en est une autre de faire, bien entendu, mais comme vous nous l'avez expliqué, vous-même à Versailles, vous y êtes parvenu, et avec un défi qui n'était pas des moindres, puisque c'était le menu entier et servi à la manière de l'époque. Pour conclure, car nous arrivons à la fin de cette émission, peut-être une réflexion que je voudrais partager avec vous, c'est que au travers des vicissitudes, des défaites, des changements de régime et même des victoires, ce qui frappe, c'est la continuité d'un art qui néanmoins continue d'évoluer, car jusqu'à aujourd'hui encore, j'ai parlé d'épure à propos de la COP21, c'était un petit peu exagéré, on sent à la table des monarques républicains qui nous gouvernent également l'intégration de la nouvelle cuisine, toutes les nouveautés sont prises en compte, et donc c'est une tradition qui est immémoriale, qui nous mène dans les temps les plus reculés, mais qui, selon le mot de Jean Cocteau, c'est comme une statue qui marche. L'histoire n'est pas finie, à l'évidence. Et elle en dit beaucoup sur la France. Pour votre part, est-ce qu'il y a une recette qui est présentée dans cet ouvrage ou alors dans la tablée que vous aviez organisée en marge de l'exposition qui vous plaît particulièrement et que vous conseilleriez à nos auditeurs pour non seulement découvrir cette tradition, mais la mettre en pratique et la vivre. Car après tout, beaucoup de nos auditeurs sont soit français, soit amoureux de la France. Et voilà, la France, il ne faut pas seulement la lire dans les livres, il faut la vivre.
Ouais, moi, je dirais simplement qu'il ne faut pas seulement parler de rôti ou de poulard, etc., mais que pour m'en référer à Henri IV, tout ce qui est produit de la mer, les coquillages, les huîtres, c'est tout à fait important. Ça ne demande pas une préparation, mais en même temps, c'est une espèce de trésor que la nature nous fournit toute seule, comme ça.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Bablon. Merci de nous avoir invités à la table des diplomates dans ce périple à travers l'histoire de France raconté à travers ces grands repas de 1520 à 2015. Et dont on espère qu'il y aura plus tard, dans quelques dizaines ou centaines d'années, de nouveaux volumes pour bien montrer que cette tradition reste vivante. Merci de nous avoir ainsi régalé. J'invite donc nos auditeurs à se procurer cet ouvrage largement illustré, j'avais oublié de le dire, et de faire vivre à leur façon cette tradition. Il n'est pas nécessaire d'être diplomate pour aimer la gastronomie française. On peut agrémenter, comme chacun le sait, des repas de famille, de colocataires ou repas d'affaires, et faire rayonner et vivre cette belle tradition au quotidien. Merci encore de votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle émission. Merci Jean-Pierre Babelot.